Eh bien, bienvenue à notre étude biblique pour cette semaine et bienvenue à vous aussi, nos téléspectateurs. On fait penser à vous qui sont à la maison. Si vous avez une Bible, allez la chercher. Nous allons chercher plusieurs passages d'Écriture aujourd'hui pour notre étude. Eh bien, jusqu'à date, on a étudié deux sujets importants. Premièrement, l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Et une autre question, même plus importante, pourquoi qu'on croit que Dieu existe? Et on est arrivé à certaines conclusions. On a dit, je crois que Dieu existe parce que la logique m'amène à cette croyance. C'est plus logique de croire que Dieu existe que de croire que tout ça, c'est venu par accident. On a dit que je crois en Dieu parce que par observation, je vois qu'il y a un certain dessein dans la nature. Et où on a un dessein, on a quoi? Un dessinateur, oui, c'est évident. On a vu aussi par notre nature humaine qu'on partage des choses ou on a des choses dans notre nature qu'on ne partage pas avec les animaux, avec la nature. Donc, cette nature-là, d'où vient? Eh bien, elle doit venir d'une nature plus haute que la nôtre. Et finalement, on a la Bible elle-même qui nous donne de l'information qui ne vient pas d'une source humaine, mais qui vient d'une source plus haute que l'homme. Dans notre émission, on a parlé de la Bible elle-même et comment Dieu se sert de la Bible pour communiquer avec nous. Autrement dit, la Bible est l'outil de communication que Dieu se sert pour communiquer avec nous. Eh bien, cette semaine, nous allons parler de Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'on a fait? On était sur la rue Sainte-Catherine de nouveau. On était voir les gens, on a posé la question, qui est Jésus-Christ? Et voici les réponses que les gens nous ont données.
Mais si j'étais pour te poser la question, qui est Jésus-Christ? C'est qui cette personne-là? Quelle réponse donnerais-tu à cette question-là?
C'est une personne de l'histoire.
Pour moi, c'est l'être suprême.
Le Fils de Dieu.
Ce personnage-là est... C'est un saint pour moi. Ce que je peux dire que... Il y a des chrétiens qui croient en sa religion. Moi, personnellement, je suis musulman. Je crois à Mohamed. Puis, c'est ça. Chacun croit une religion. Le bouddhiste croit à la vache.
Pour moi, c'est un symbole. C'est rien d'autre. C'est un symbole.
Jésus-Christ est tout pour nous. Sans lui, on ne pourra pas respirer. Les feuilles ne pourront pas grouiller. Il est tout. C'est lui qui nous aide dans tout ce qu'on fait.
Depuis des millions d'années, c'est le symbole de la puissance, de cette puissance qui dirige le monde et qui a fait évoluer les choses.
Le fait que Jésus est le Fils de Dieu, ça guide votre vie.
Ouais, comment ben, j'ai fait des bêtises jeunes, je me prépare à 60 ans passés, je fais des bonnes choses pour moi aller au ciel. Je sais qu'il y a un ciel, puis en enfer pour moi, il y a quelque chose en haut, pas en bas. Okay. Je me prépare là-en haut.
Ben, tant mieux. Merci beaucoup pour votre opinion.
J'ai été à Saint-Anne, dans le Nouveau-Pré, puis le pape, c'est mon chum. C'est le plus grand trompe qu'il n'y a pas dans le monde entier. Puis je suis catholique. Puis les jeunes ne font pas de religion. Qui crient dimanche, je suis curé. Mais quand il y a un tremblement de terre, la bombe va tomber. Là, ils vont aller à l'église, ils vont voir un peu, ils vont retourner à l'église.
OK, merci.
Eh bien, ce monsieur-là avait surtout une opinion, quand même. Ils avaient une opinion. Eh bien, cette semaine, on pose la question, notre question pour la ligne oui ou non est Jésus est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus est Dieu. Dieu. Si vous êtes d'accord, si c'est un oui, appelez-nous, donnez-nous votre opinion au 1-900-210-7330. Et puis, si c'est comme les gens nous ont dit sur la rue, si c'est non, Jésus pour moi, c'est pas Dieu, appelez-nous, on veut savoir votre opinion aussi, au 1-900-210-7333. Et n'oubliez pas, il va y avoir une charge de 50 sous que le bel téléphone va mettre sur votre compte à fin du mois. Eh bien, on va commencer avec l'idée Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Vous savez, quand j'étais sur la rue et je posais la question aux gens, vous savez, qui est Jésus? Les gens n'écoutaient pas la question que je posais. Eux me répondaient, Jésus pour moi. Jésus pour moi. Jésus, pour moi, c'est mon chum. Jésus, pour moi, c'est une force. J'ai déjà eu une dame qui dit, « Oh, moi, quand je vais jouer au golf le dimanche, elle ne venait pas à l'église, elle joue au golf. » Elle dit, « Quand je vais jouer au golf le dimanche, Jésus est avec moi, il me parle. » C'est mon chum. Et d'autres personnes, et surtout ici au Québec, parce qu'on est au Québec, et on connaît les gens d'ici, j'ai entendu ça souvent, Jésus, c'est un petit bébé. Le petit bébé Jésus. Jésus à Noël, vous savez, les petites statues et tout autour, et le petit bébé Jésus. Le petit Jésus. Je pense que j'ai entendu dire ça plus de fois dans ma vie que n'importe autre description de Jésus-Christ. Le petit Jésus. Le petit Jésus. Si le petit Jésus veut, ou le petit Jésus, il est bon. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque pays, ils ont leur concept de qui est Jésus. Ici, on voit Jésus plutôt comme un enfant. Et si vous allez à des pays latins, souvent, au Mexique, on va dire, pour eux, Jésus, c'est une personne qui est mort. Nous, on va à l'église, des fois, et on voit Jésus sur la croix. Mais quand on va dans d'autres pays, pour eux, Jésus est dans un cercueil. Jésus est mort. Jésus souffre seulement. Pour d'autres personnes, Jésus, bon, c'est un saint, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui a enseigné la morale, quelqu'un qui a été là pour nous donner un bon exemple. On a tous besoin d'un exemple dans la vie. Et Jésus est là, lui, pour nous donner un exemple. Mais ce n'était pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée est, qui est Jésus? Bien, vous savez, combien de livres dans le monde qui nous donnent l'information au sujet de Jésus? Est-ce qu'on va trouver l'information au sujet de Jésus dans le Canadian Tire Magazine? Non. Les ventes de pneus, oui, mais l'information sur Jésus, non. On va trouver l'information sur Jésus dans la Bible. Donc, la question redevient la Bible. Elle dit quoi au sujet de Jésus? Et c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus? Vous avez vos Bibles? À la maison, vous avez vos Bibles? Ouvrez à Actes, chapitre 2, verset 36. Actes, chapitre 2. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, chapitre 2, verset 36. Et lisez avec moi. Là, je vais établir le contexte. Ici, Pierre, l'apôtre, après la mort et la résurrection et la glorification de Jésus, commence à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il prêche au sujet de sa vie et ses miracles et sa mort, sa résurrection, tout ça. Et il arrive à une conclusion devant la foule. Et voici sa conclusion. Il dit, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, la Bible dit, Jésus, c'est mon chum. C'est ça que c'est marqué? Non. Jésus, c'est mon ami? Non. Jésus, bébé? Non. La Bible dit, Jésus, que toute la nation d'Israël sache avec certitude que Jésus est Seigneur et Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Seigneur et Christ? Il y a bien des mots religieux, des fois, qu'on s'en sert, mais on ne connaît pas le sens. Le mot Seigneur veut dire quelqu'un qui a l'autorité ou la souveraineté. Même à l'époque, quelqu'un qui était Seigneur, c'était celui qui possédait soit un terrain ou, vous savez, des esclaves et tout ça. Eh bien, Jésus, Seigneur, pourquoi qu'il est Seigneur? Pourquoi on dit de lui Seigneur? Eh bien, parce qu'il a l'habilité d'être Seigneur. Il a le droit de l'être. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît Wayne Gretzky, hein? Le joueur de hockey, Wayne Gretzky, tout le monde connaît. Wayne Gretzky, c'est le Seigneur du hockey. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a l'habilité d'être Seigneur. Il a l'habilité d'être maître dans le jeu de hockey. Pourquoi? Il a le talent. Il n'y a personne qui a dit, on va faire une vedette de toi parce que tu as les yeux bleus et puis, tu sais, ou bruns, whatever. Non. À un moment donné, il a commencé à jouer au hockey, puis il faisait des buts, il faisait des buts, il faisait des buts. À un moment donné, tout le monde s'est dit, waouh, ce gars-là, c'est une vedette. Pourquoi? Parce qu'il y a un talent naturel qui l'amène, vous savez, plus haut que les autres joueurs. Donc, il y a l'habilité. Le premier ministre de notre province, il est premier ministre pourquoi? Parce que la loi lui donne la permission d'être premier ministre une fois élu. Ouais. Et Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il a, numéro un, le talent de l'être, et numéro deux, légalement, le droit de l'être. Et vitement, on va regarder quatre passages bibliques qui nous disent ou qui nous expliquent ce droit et ce talent. Vitement, Colossiens, chapitre 1, s'il vous plaît, verset 15. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Ici, c'est Paul qui écrit au sujet de Jésus, Colossiens, chapitre 1, verset 15, et il dit de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc, quelqu'un me dit, « Pourquoi tu dis Jésus est Dieu? » Et je dis, « Il est Dieu, il est Seigneur, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. » Le mot « image » dans le grec ne veut pas dire une caricature, veut dire « Il est exactement la même nature que la divinité. » Deuxième passage d'Écriture, 1 Pierre, chapitre 3. On va vite ce matin. Vous êtes habitués avec vos Bibles, on peut aller plus vite. 1 Pierre, et ça c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui a écrit cette épître. Chapitre 3, verset 22. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Ici, Pierre, en parlant de Jésus, dit, « Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumises. » Eh bien, qui a le droit de dire « Je suis Seigneur » Eh bien, celui qui est à la droite de Dieu. Vous savez, en termes bibliques, quand on parle de la main droite de Dieu, on parle de la main de pouvoir, la main de force. Et qui est soumise à Jésus-Christ? Regarde bien ce que le passage dit. Il est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances sont soumises. Même les anges sont soumis à Jésus. Il y a des gens qui disent que Jésus, c'est un ange. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que les anges sont soumis. Ça veut dire qu'il est plus haut que les anges. Eh bien, après les anges, on a qui? On a Dieu. Une fois qu'on monte avec les roches, les papillons, vous savez, les vaches, les hommes, les anges. Et après qu'on a les anges, on a Dieu. Regardons vitement Matthieu, chapitre 28, verset 18. Là, Jésus lui-même parle de sa souveraineté lui-même, de sa propre bouche, et il nous dit, pas à nous, mais à ses apôtres, verset 18, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, Jésus est Seigneur, il est maître, parce que tout pouvoir, où? Juste sur la terre? Non, dans les cieux et sur la terre, a été donné à lui. Et finalement, dernier passage biblique, Colossiens, on retourne à Colossiens, chapitre 1, verset 16, on continue là. Colossiens, chapitre 1, verset 16, s'il vous plaît. Ici, Paul écrit, « Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté et pouvoir. Tout a été créé par lui. » Et pour lui. Donc, pourquoi Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur parce qu'il a une nature divine, il a une position exaltée, il a une autorité complète et il a domination sur tout. Quand on va revenir, on va étudier la position de Jésus comme le Christ.
Télébible vous est présentée par les Églises du Christ. Si vous désirez de plus amples renseignements concernant l'Église, soit à Montréal ou à Québec, veuillez nous écrire à Télébible, casier postal 26, Lachine, Québec, H8S4A5, en prenant soin d'inclure une enveloppe de retour préaffranchie. Pour ceux d'entre vous qui habitent dans la région de Montréal et qui aimeraient assister à une discussion biblique en groupe, semblable à celle qui vous est présentée ici, Vous êtes invité à vous joindre à notre famille chrétienne chaque mercredi soir à 19h. Nous sommes situés au coin de la 44e avenue et de la rue Sherbrooke à la Chine. Si vous utilisez les transports publics, l'autobus 90 à partir du métro Vendôme vous déposera à notre porte. Bienvenue donc mercredi prochain à 19h.
Ok, on a parlé là de Jésus. Et brièvement, on a touché les qualifications de Jésus qui lui donnent le droit d'être Seigneur. La Bible dit « Jésus est Seigneur ». Et nous autres, on se pose la question « Pourquoi ?» Bien, on a répondu la question « Pourquoi ?» Il est Seigneur parce qu'il a le droit d'être Seigneur. Il est divin, il est à la main droite de Dieu, il a domination et autorité sur la terre, dans les cieux, sur les anges, les pouvoirs. Mais à un moment donné, le gars qui contrôle tout, il a le droit d'être Seigneur. Ah, oui.
Il n'a pas péché aussi, Jésus. C'est ce qui lui donne quand même la force d'être Seigneur.
Oui, oui. Il n'a point péché, exactement, Jean. Non, je veux dire, j'ai choisi 4. Et si on avait une heure entre nous, on pourrait trouver encore beaucoup plus de raisons pourquoi Jésus est Seigneur. Mais j'ai choisi ces 4-là. Mais là, une cinquième raison, Jean a bien dit, il n'a point péché. Et une autre raison, sa sainteté lui donne le droit d'être Seigneur, le Seigneur moral de tout l'univers. C'est bien dit. Eh bien là, on va parler de l'autre chose, parce que Pierre a dit deux choses. Il a dit, il est Seigneur et Christ. Et Christ. Moi, je m'appelle Michel Mazzalongo. C'est un bon Québécois, ça. Je savais pas, c'est comme Beaulieu, Grenier. Il y a bien des gens qui pensent que Jésus-Christ, tu sais, Michel Mazzalongo, Jésus-Christ. Bonjour, Monsieur Christ, je te présente Monsieur Mazzalongo. Ils pensent que Christ, c'est son deuxième nom, son nom de famille. Joseph s'appelait Joseph-Christ, Marie-Christ. Mais le mot Christ n'est pas un nom de famille. Le mot Christ est quoi? Est-ce qu'on sait ce que c'est, ça? Hein, Bill?
La question, c'est qu'est-ce que c'est? Christ?
Oui.
OK, Christ veut dire le one, celui qui est choisi comme roi.
Oui, oui, exactement. Oui. Un autre commentaire?
Le Messie.
Messie, oui, oui. Le mot Christ vient du mot grec Christos. On a francisé, c'est ça le mot. On a francisé le mot grec Christos et on a fait Christ avec. Et le mot grec Christos vient du mot juif ou hébreu Mésias. Le mot Mésias, Messie, veut dire exactement loin. Pas loin là-bas, mais loin. Est-ce que quelqu'un me dit, peut m'expliquer, c'est quoi ça, loin?
Hein? Choisir, on enduit d'huile.
Oui.
La tête de celui-là.
Oui, on enduit de l'huile sur une personne. Et on faisait ça pour quoi? Plus fort, oui.
Pour montrer que Dieu l'avait approuvé.
Pour montrer que Dieu avait approuvé, mais plus qu'approuvé. Que Dieu avait mis à part, que Dieu avait même
choisi.
Donc, quand on mettait l'huile sur la personne, la signification, exactement, était une consécration. C'était, le symbole, c'était que le Saint-Esprit venait sur cette personne pour lui donner la force de faire la tâche que Dieu lui a donnée. Eh bien là, Dieu choisissait deux sortes d'hommes par cette méthode dans l'Ancien Testament. Les premiers, c'était, on le dit déjà, des rois. Et le deuxième, c'était des... Non, pas les prophètes. Les prêtres, les sacrificateurs étaient choisis de cette façon-là. Les rois étaient choisis pour protéger la nation, pour défendre la nation, pour, vous savez, induire le peuple comme roi de Dieu. Et les prêtres étaient choisis pour faire quoi? Pour offrir les sacrifices. Est-ce que quelqu'un sait la différence entre un prophète et un prêtre? Quelqu'un connaît la différence?
Un prophète amène des révélations.
Un prophète amène les révélations de Dieu et les donne au peuple. Le prêtre, lui, fait quoi, Michel?
Il prend les péchés du peuple et les donne à Dieu.
Right. Le prêtre, lui, va au peuple et va devant Dieu et offre les péchés du peuple devant Dieu. C'est intéressant ce qu'ils faisaient à l'époque. Ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils choisissaient un animal, un bouc ou un agneau, Et puis, ils imposaient les mains, le prêtre, comme représentant du peuple, imposait les mains sur l'animal. Et en imposant les mains sur l'animal, la signification, c'était que les péchés du peuple étaient transférés à l'animal. Et là, il tuait l'animal, prenait le sang, mettait le sang de côté et brûlait, offrait l'animal, tuait l'animal et offrait l'animal dans le feu. Et la signification de la mort est que par l'entremise de la mort, les péchés passaient de ce monde à l'autre monde. Parce que la mort, c'est la porte entre ce monde et l'éternité. Donc, l'activité du prêtre, c'était de prendre les péchés du peuple continuellement et les mettre sur l'animal sacrificatoire et envoyer les péchés envers Dieu. OK. Eh bien, à l'époque, ils ont choisi beaucoup de prêtres, beaucoup de rois. Mais les prophètes disaient, un jour, il va avoir un prêtre, il va avoir un roi, il va avoir quelqu'un, un serviteur spécial qui va venir. Pas juste n'importe quel roi, pas juste n'importe quel prophète, mais un roi et un prophète spécial qui va venir, le Messias, loin de l'Éternel. Pas juste un des serviteurs, mais le serviteur précis. Regardez bien dans Ésaïe, s'il vous plaît. Chapitre 9, verset 5. Le prophète parle de ce serviteur qui était pour venir un jour et parle de les qualifications très spéciales de ce serviteur. Ce n'est pas n'importe qui. Disons ensemble, s'il vous plaît, chapitre 9, verset 5, il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, le prophète, des centaines et des centaines d'années avant que Jésus arrive, parle qu'un jour, quelqu'un va venir. Pas juste n'importe qui, mais quelqu'un qu'on dit prince de paix, Père éternel, un serviteur divin, va venir un jour. Regardons en Hébreux, chapitre 9, verset 11. Hébreux, nous sommes dans le Nouveau Testament cette fois-là. Hébreux, chapitre 9, verset 11, s'il vous plaît. Et on va voir que ce n'était pas seulement qu'un roi ou un chef de peuple qui était pour venir, mais c'était aussi un prêtre spécial. Vous savez, on choisissait soit un roi ou un prêtre. Mais les prophètes disaient qu'un jour, quelqu'un viendra qui rejoindrait les deux offices. Il serait non seulement prêtre, non seulement roi, mais il serait les deux, prêtre et roi. Loin de l'Éternel était un prêtre et un roi. Lisons ensemble, chapitre 9, versets 11 et 12. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Donc, Jésus n'était pas seulement qu'un prêtre. Il était un prêtre divin. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas été au temple offrir un sacrifice. Il n'a pas choisi un agneau et tué l'agneau pour offrir à Dieu, mais il a été lui-même dans le sanctuaire céleste devant Dieu et il a offert son propre sang. Seulement qu'un prêtre divin peut accomplir une telle tâche pour nous. Donc, on pose la question, qui est Jésus-Christ? La Bible nous dit, Jésus-Christ est divin prêtre et divin roi. N'oubliez pas ça si quelqu'un vous pose la question. Il est Seigneur parce qu'il a le droit de l'être, il est loin de l'Éternel parce qu'il est prêtre et en même temps, il est roi.
Le mot biblique pour aujourd'hui, c'est le mot médiateur. Aujourd'hui, on a posé la question, qui est Jésus-Christ? Et la réponse était, il est divin sauveur et divin Seigneur. Mais Si j'étais pour poser la question « Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire humaine? », la réponse sera le rôle de médiateur. En 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Paul écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. » Maintenant, le mot « médiateur » veut simplement dire « entre deux ». À l'époque, le mot était servi pour décrire une personne qui amenait la paix entre deux personnes ou deux pays qui étaient en guerre. De nos jours, le médiateur est une personne neutre qui amène la paix entre l'Union et une compagnie. Mais à l'époque que Jésus vivait, le médiateur était quelqu'un qui partageait quelque chose avec les deux personnes ou les deux pays qui étaient en guerre. Soit son terrain était à la frontière des deux pays, ou il partageait la culture des deux pays, ou il risquait beaucoup de perdre si la guerre continuait. Eh bien, Jésus est un médiateur de ce sort, parce qu'il partage quelque chose avec les deux personnes qui sont en guerre. Les deux personnes qui sont en guerre, c'est Dieu et l'homme, parce que l'homme a péché contre Dieu. Maintenant, Jésus partage quelque chose entre les deux personnes parce que, premièrement, il est Dieu. Il a une nature divine. Donc, il partage quelque chose de très intime avec Dieu. Et deuxièmement, il est homme. Il est devenu homme. Donc, il partage quelque chose d'intime avec l'homme. Pour cette raison, Jésus-Christ devient le médiateur parfait pour ramener Dieu et l'homme ensemble dans une paix parfaite. Donc, notre mot biblique pour cette semaine, c'est le mot « médiateur ». Si vous désirez connaître les résultats du vote d'aujourd'hui, veuillez appeler la ligne d'information de Télébible au code régional 514-637-2112. Les résultats seront disponibles 24 heures sur 24 à partir de lundi à midi. Appelez pour savoir combien de personnes sont d'accord avec vous et combien ne le sont pas. La ligne est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Voici encore le numéro à composer, 514-637-2112. Eh bien, on a un peu de temps qui nous reste. Et je fais une petite parenthèse sur l'idée du sacrifice. Vous savez, on a tellement d'informations à partager avec vous. Je prends l'occasion. Vous savez, je vous ai dit qu'ils ont tué l'animal et puis il y avait comme du sang. Ce qu'ils faisaient avec le sang, eh bien, les cendres qui restaient là, de l'animal après que l'animal était mort, si quelqu'un était impur, hein, il y a un lépreux où il avait touché quelqu'un impur et ils étaient dans un état d'imperfection, les gens venaient voir le prêtre et le prêtre mélangeait les cendres avec le sang et mettait le sang directement sur la personne. Et le symbole de ça, c'est que la personne avait fait contact avec le sacrifice même. Et de cette façon, en faisant contact avec le sacrifice, il était maintenant pur. Eh bien, dans le Nouveau Testament, quand une personne confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et se repent de ses péchés, c'est quoi la prochaine chose qu'il fait? Il est baptisé. Eh bien, dans les eaux du baptême, nous, on vient en contact avec le sacrifice de Jésus. Et voilà la théologie derrière le pardon des péchés qu'on trouve dans les eaux du baptême. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Je fais penser à nos téléspectateurs. Si vous voulez voter aujourd'hui sur la question « Jésus est Dieu », on vous donne le numéro de téléphone de nouveau 1-900-210-7330 pour les « oui ». Et pour les noms, 1-900-210-7333. Eh bien, j'espère que vous allez être là la semaine prochaine, vous, les téléspectateurs, ici avec nous pour une autre édition de Télébible. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.